Chapitre 30. Première réflexion de M. le commissaire de police Mifroid quand il se réveilla au fond des catacombes. Il redoute avant tout d'être vieux jeu. Quand on se réveille au fond des catacombes, dit M. le commissaire de police Mifroid dans l'admirable rapport qu'il rédigea à l'issue de ce surprenant voyage, la première pensée qui vous envahit l'esprit est une pensée de crainte. La crainte d'être vieux jeu. J'entends par là l'anxiété subite où l'on se trouve de reproduire tous ces gestes ridicules que les romanciers et dramaturges ne manquent point de faire accomplir aux tristes héros qu'ils égarent dans des souterrains, grottes, excavations, cavernes et tombeaux. Dans le moment même de ma chute, alors que déjà je parcourais si rapidement l'espace qui me séparait du sol des catacombes, ma présence d'esprit ne m'avait pas abandonné, et je savais que je tombais au fond de ces carrières vieilles de 1000 ans, qui croisent innombrables leurs capricieux méandres au-dessous du Paris moderne. Je retrouvais ce sentiment, je dirais même cette sensation, accompagnée d'un léger engourdissement douloureux, au réveil qui suivit l'engourdissement où j'avais été plongé par le choc inévitable. J'étais donc dans les catacombes. Je me dis tout de suite, oh, surtout ne soyons pas vieux jeu. Il eût été par exemple vieux jeu de pousser des cris désespérés, de faire appel à la Providence, de se frapper le front contre les parois du souterrain. Il eût été vieux jeu de retrouver au fond de sa poche une tablette de chocolat qui aurait été immédiatement séparée en 8 et qui aurait ainsi représenté 8 jours de nourriture assurée. Il eût été vieux jeu de découvrir également dans ses poches un bout de bougie et 5 ou 6 allumettes, et ainsi de créer un problème d'une anxiété touchante, où la question de savoir si l'on doit laisser brûler la bougie une fois allumée ou la souffler ensuite, quitte à perdre une allumette, aurait troublé plus d'une digestion autour des tables de famille. Moi, je n'avais rien dans mes poches, rien, rien, rien. Je le constatais tout d'abord avec une évidente satisfaction, et dans les ténèbres des catacombes, je me frappais la poche en répétant « Oh, rien, rien, rien !» Je pensais aussitôt qu'il serait nouveau jeu pour un homme dans ma situation d'éclairer sans plus tarder cette nuit opaque qui me pesait si lourdement sur les paupières et qui me fatiguait si singulièrement les yeux, d'éclairer, dis-je, cette nuit, d'une subite et radieuse et victorieuse étoile électrique. N'avais-je point, avant que de tomber dans ce trou, acheté une 12 douzaine de lampes électriques que je balançais en paquet au bout d'une ficelle rouge quand je reconnus Cartouche? Il eût été incroyable que ce paquet ne m'eût point accompagné dans ma chute. Sans me lever, car un mouvement imprudent pouvait me faire perdre la connaissance de l'endroit exact où j'étais tombé, je tendis les mains autour de moi et je fus assez heureux pour ramener mon paquet. Je redoutais que ces lampes ne fussent brisées, mais je sentis bientôt qu'il n'en était rien, et ayant défait le paquet, je pris l'une d'elles et appuyai sur le bouton. Le souterrain s'éclaira d'une lueur féerique. Je ne pus m'empêcher de sourire en pensant aux malheureux qui, enfermés dans quelque caverne, se traînent généralement en retenant son souffle derrière un lumignon chétif qui a hâte de s'éteindre. Je me levai alors et j'examinai la voûte. J'étais au courant des travaux de réfection de la voie. Je savais qu'ils touchaient à leur fin, et quand je constatai que le trou par lequel j'étais descendu était bouché définitivement, je n'en conçus aucun étonnement. Maintenant, quelques mètres de terre me séparaient des vivants, sans qu'il me fût possible d'atteindre à cette terre même, tant la voûte était haute. Je fis du reste ces observations sans effroi, ayant dirigé mon étoile électrique sur le sol, j'aperçus un corps. C'était le corps de M. Théophraste Longuet, le corps du nouveau Cartouche. Je l'examinai et je remarquai qu'il ne portait aucune trace de blessure grave. L'homme devait être étourdi, ainsi que je l'avais été moi-même, et sans doute il ne tarderait point à sortir de cet évanouissement. Je me rappelais que M. Le Camus m'avait présenté un jour son ami aux Champs-Élysées, et voilà que j'allais avoir affaire à lui comme au pire des assassins. Sur ces entrefaites, M. Lourguet poussa un soupir, étendit le bras, se plaignit de quelques douleurs, me salua et me demanda où nous étions. Je le renseignai. Il n'en parut point entièrement désolé, mais tirant de sa poche un portefeuille, il traça quelques lignes qui pouvaient ressembler à un plan, me les montra et dit « Monsieur le commissaire, nous sommes au fond des catacombes. C'est un événement extraordinaire. Comment allons-nous sortir de là où on ne sait rien? Ce qui préoccupe l'esprit à cette heure est beaucoup plus intéressant, croyez-moi, qu'une chute dans les catacombes. Veuillez jeter, je vous prie, un coup d'œil sur ce petit plan. » Et il me tendit la feuille sur laquelle je vis ceci. Puis il éterna deux fois. « Oh ! Remarquai-je en prenant le papier, vous êtes enrhumé. Cela me tient, répondit-il, depuis une promenade un peu prolongée que je fis par un temps de pluie et de fraîcheur sur les toits de la rue Gérando. Je lui conseillai de se soigner. Je dois dire que cette conversation si naturelle entre deux hommes au fond des catacombes, quelques minutes après leur réveil d'une chute aussi inattendue, me plut infiniment. Ayant considéré le papier et les lignes qui s'y trouvaient tracées, je demandai des explications. Monsieur Longuet me raconta l'histoire d'une disparition de train et d'une réapparition de wagon, qui est bien la plus fantastique que j'ai jamais entendue. Cet homme avait voulu faire disparaître un train entre A et B en le lançant par le moyen d'un faux aiguillage sur la voie des garages HI, et il l'avait attendu en K. Or, ce train n'était venu ni en A ni en K, c'est-à-dire ni pour lui ni pour personne. Ensuite, un wagon lui était apparu en K, après quoi ce wagon lui-même avait disparu. J'aurais pu croire que cet homme, vu son passé, le passé de cartouche, et ce qu'il me racontait présentement était fou, s'il ne s'était exprimé avec la plus grande logique et s'il ne m'avait donné les détails matériels les plus certains sur l'aiguillage et sur tous les faits de la cause. Enfin, il est d'expérience qu'un fou comprend toujours. Or, lui demandait à comprendre. Je le priai de répéter cette histoire. Il se tut. Deux fois, je réitérai cette prière, et il continua de se taire. J'allais m'impatienter, quand, se rendant compte que je l'avais prié de quelque chose, il me confia que, par instant, il était sourd. Cette infirmité passagère lui venait de ce que, m'a-t-il dit, un monsieur Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de Lanox lui avait, pendant son sommeil, versé de l'eau chaude dans les oreilles. Bientôt, ses oreilles ayant repris leur service accoutumé, nous revînmes au problème du train. M. Lourguet me dit qu'il préférait mourir 10 fois au fond des catacombes plutôt que d'en sortir une seule s'il en sortait sans savoir ce qu'était devenu son train. « Ne veut pas, ajouta-t-il, perdre ce qu'il y a de plus précieux au monde, la raison. » Et quand cela vous est-il arrivé, dis-je? Car enfin, moi, je n'ai pas entendu parler de cette disparition de train. Mais ça devrait se savoir. Cela doit se savoir maintenant, répondit-il avec une grande mélancolie. La chose est arrivée quelques heures seulement avant votre chute dans les catacombes. J'examinai encore le papier pendant 5 minutes. Je réfléchis profondément, demandai quelques compléments d'instruction, éclatai de rire. Bien qu'il n'y eût point à rire, car la catastrophe était vraiment épouvantable. Ce qui me faisait rire, c'était la difficulté apparente du problème, et aussi la joie de l'avoir, après 5 minutes, résolu. Vous croyez raisonnable, m'écriai-je, parce que vous avez une raison, mais vous êtes comme 100 000. Vous ne savez pas vous en servir. On dit la raison, mais qu'est-ce que la raison dans un cerveau qui ne sait pas où la prendre? C'est un merveilleux instrument à la portée d'un manchot. Monsieur Lorguet, ne détournez point ainsi la tête d'un air boudeur. Je vous le dis, vous ne savez par quel bout prendre votre raison. Voyons, monsieur Lorguet, voyons, raisonnez avec ce papier à la main. Il essaya, le malheureux. Il dit, il y avait 5 hommes en A, 5 hommes en B. Les 5 hommes de B ont vu passer le train. Les 5 hommes de A ne l'ont point vu. Moi, j'étais en K, je suis sûr qu'il n'est pas passé en K. Par conséquent, il n'y a plus de train. Par conséquent, votre train s'est évanoui. Volatilisé, envolé, psst, train, disparaissez. Vous croyez peut-être que le train est dans la manche de Dieu? Vous voyez bien, monsieur Longuet, que si vous avez une raison, vous ne savez pas vous en servir. Permettez-moi de vous dire que vous avez pris votre raison par le mauvais bout. Le mauvais bout est celui qui commence par « nous n'avons pas vu le train » et qui finit par « donc il n'y a plus de train ». Alors moi, je vais vous donner à tenir le bon bout de votre raison. C'est celui-ci. La vérité est que le train existe et qu'il existe entre les points B où on l'a vu passer, A où on ne l'a pas vu passer et I où il aurait pu aller. Puisque nous sommes dans une plaine, votre train est entre A, B et I. C'est sûr. Mais chut, taisez-vous. Et puisque nous sommes dans une plaine et que dans cette plaine il n'y a qu'un monticule de sable, le seul endroit où le train aurait pu disparaître en I, le train est dans le monticule de sable. C'est la vérité éternelle. Mais ça, je jure que non, j'étais en K attendant le train, j'ai pas quitté la voie Hachi. Mais par les chefs-d'œuvre immortels de la Renaissance italienne, je vous ordonne de ne point lâcher le bon bout de votre raison que je vous ai donné à tenir. Nous discutons en ce moment de ce qui est. Nous n'en sommes pas encore au comment. C'est parce que vous avez commencé par le comment que vous n'avez pu aboutir à ce qui est. Le train est dans I puisqu'il ne peut être autre part. Si je suis sûr que 5 hommes n'auraient pas pu le voir passer en B comme ils l'affirment, alors qu'il ne serait pas passé, je suis aussi certain que 5 hommes n'ont pas pu ne pas le voir en A, alors qu'il serait passé. Et puisque la ligne AB examinée était vide de train, c'est qu'il s'est engagé sur la ligne HI. Nous voilà donc avec le train sur la ligne HI. Mais moi aussi, j'y suis, s'écrie Théophraste. Et je vous jure qu'il n'y est pas. Ah, le malheureux qui lâche encore le bout de sa raison. Vous êtes en K. Le train passe en K. Il faut qu'il passe en K. Et il faut qu'il aille se jeter en nid, puisqu'il ne peut pas être autre part. Et par un hasard nécessaire, pendant que le commencement du train s'engouffre dans le monticule de sable qui l'engloutit, j'imagine avec certitude que la ligne HI est trop courte pour que le mécanicien, s'étant aperçu de son erreur, par exemple à mi-route, ait eu le temps de parer la catastrophe. La chaîne d'attelage du dernier wagon est brisée, et le wagon ainsi que le fourgon de queue se mettent à descendre jusqu'en K, la voie qui était un peu montante puisqu'elle allait à un monticule. Là, après être descendu en H et remonté en K, vous avez vu le wagon et M. Petitot à la portière. Votre M. Petitot a ouvert la portière peut-être pour se jeter sur la voie, au moment où il s'est rendu compte de la catastrophe imminente. Et comme celle-ci s'est produite, un choc a refermé la portière sur la tête de votre monsieur Petitot. Ça, je le comprends, mais ce que je comprends pas, voyons d'abord tout ce que nous comprenons. C'est le bon bout de la raison. Nous verrons ensuite ce que nous ne comprenons pas. On n'a retrouvé personne dans le fourgon. La secousse a certainement projeté le garde-frein dans le sable. Tout cela est certain. Maintenant, après avoir dépouillé M. Petitot de ses habits, vous vous asseyez sur un talus et vous lisez les papiers de votre M. Petitot. Quand vous levez la tête, le wagon n'est plus là. Parbleu, mais puisqu'il y a pente, et puisqu'il y a du vent, un vent qui à la portière a jeté la tête de M. Petitot comme un pavillon, le wagon, après avoir glissé jusqu'en H, s'est retrouvé sur la ligne AB, un peu plus loin que H, du côté de B, où les hommes d'équipe l'ont certainement retrouvé. Comprenez-vous maintenant ? Comprenez-vous tout, excepté que vous n'avez pas vu le train passer en K ? Bien, puisque tout s'explique ainsi, il faut que la chose se soit passée ainsi. Et alors seulement, je recherche comment vous n'avez pas vu le train passer en K. Ce qui est impossible à expliquer pour 5 personnes en A ou en B doit l'être pour une en K. Mais j'attends, dit Théophraste. Je continuais en ricanant. Et vraiment, vous allez voir qu'il y avait de quoi ricaner. Il y a des moments où vous êtes sourd, monsieur Longuet. Oui, j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire. Ben, imaginez que vous étiez sourd au moment où vous attendiez le train en K. Vous ne l'avez donc pas entendu. Oui, mais je l'aurais vu. Déjà, vous ne l'avez pas entendu. C'est beaucoup, cela. Dieu vous bénisse, monsieur Longuet. Dieu vous bénisse. Monsieur Longuet éternuait. Monsieur Longuet me remercia de ce que je priais Dieu de le bénir, et comme il éternuait encore, je tirai ma montre de sa poche. Il me l'avait déjà prise. Et je lui dis... Savez-vous, monsieur Longuet, combien dure un seul de vos éternuements ? C'est-à-dire, combien vous restez le temps la tête basse pendant que vous éternuez ? 3 secondes. C'est-à-dire 1 seconde 30 centièmes de plus qu'il ne faut pour ne pas voir passer devant soi un train de 4 wagons qui, étant en retard, fait du 120 à l'heure. Monsieur Longuet, le train a disparu, ou plutôt a semblé disparaître, parce que vous étiez sourd et enrhumé. Monsieur Longuet leva des bras démesurés vers les voûtes des catacombes. Chapitre 31. Où monsieur le commissaire de police mi-froid trouve qu'il a trop de lumière. Quand monsieur Longuet fut remis de l'émotion que lui avait causée mon explication de la disparition du train, il m'embrassa et me passa un revolver qu'il avait trouvé dans la poche de son monsieur Petitot. Il ne voulait pas le conserver sur lui. Il désirait que je pusse me défendre au besoin contre les fantaisies dont il redoutait, avec une sagesse due, hélas, à une trop réelle expérience, le dangereux retour. Pour la même raison, il me confia un grand couteau qui venait toujours de la poche de monsieur Petitot. Nous rîmes et nous nous occupâmes sérieusement de notre situation. Monsieur Longuet continuait à vider ses poches, et ainsi il sortit 7 petites lampes électriques, semblables à celles dont j'avais fait l'acquisition, avant que de choir en ce trou. Il se félicita, disant que son instinct avait du bon, qu'il avait poussé à les dérober, car en comptant mes 6 lampes, nous avions maintenant 13 lampes, ce qui à 48 heures au minimum d'électricité pour chacune nous donnait 520 heures de lumière consécutive. Il ajouta que, comme il fallait considérer qu'au préalable, nous pouvions rester 10 heures par jour sans lumière, à cause du sommeil et du repos de midi, oui, monsieur Longuet avait l'habitude de la sieste, son calcul lui donnait donc à 14 heures de lumière par jour, 37 jours plus 2 heures de lumière pour le 38e jour. Je dis à monsieur Longuet, monsieur Longuet, vous êtes tout à fait vieux jeu. Cartouche enfermé dans les catacombes n'en eût pas agi autrement avec des lampes électriques. Mais moi, monsieur Longuet, moi, je prends vos 7 lampes et j'y joins 3 des miennes, et voilà ce que je fais de ces 10 lampes. Et je les jetais négligemment loin de nous. J'ajoutai, nous n'avons que faire de trimballer ces impedimenta. Avez-vous faim, monsieur Longuet ? Oh, très faim, monsieur Millefroy. Combien de temps pensez-vous pouvoir avoir faim ? Comme monsieur Longuet semblait ne pas comprendre, je lui expliquai que j'entendais par là lui demander combien, selon lui, il pouvait rester de temps à avoir faim sans manger. Bon, je crois bien, assura-t-il, que s'il me fallait rester 48 heures avec cette faim-là. Mettons, interrompis-je, que vous restiez 7 jours avec cette faim-là. 3 lampes nous suffisent donc, car au bout de ces 3 lampes, nous n'aurons plus besoin de lumière. Il avait compris, mais bien qu'il eût compris, il ramassa encore 2 lampes. Je me moquais et nous nous mîmes en route. « Où allez-vous ? » me demanda-t-il. « N'importe où, fis-je, mais il faut aller partout, plutôt que de rester là, puisque là, il n'y a aucun espoir. » Nous réfléchirons en marchant. La marche est notre seul salut. Mais en marchant 7 jours, sans prendre de point de repère, nous risquerons tout de même d'arriver quelque part. « Pourquoi sans prendre de point de repère ?» me demanda-t-il. « Parce que, répliquai-je, j'ai remarqué que dans toutes les histoires de catacombes, ce sont toujours les points de repère qui ont perdu les malheureux égarés. Ils mêlaient leurs points de repère, n'y comprenaient plus rien, et s'affalaient, désespérés. Il faut éviter, dans notre situation, toute cause de désespoir. Vous n'êtes pas désespéré, monsieur Théophras Longuet. « Oh, nullement, monsieur le commissaire de police Mifroy. J'ajouterais même que, si j'avais moins faim, votre aimable société aidant, je ne regretterais nullement les toits de la rue Gérando. Pour tromper ma faim, monsieur le commissaire, vous devriez bien me raconter des histoires sur les catacombes. »« Mais certainement, mon ami, vous en connaissez de fort belles ? Oh, de tout à fait belles. » Il y a l'histoire du concierge et l'histoire des 4 soldats. Par laquelle allez-vous commencer ? Je vais d'abord vous entretenir, si vous le permettez, mon ami, des catacombes en général. Ceci vous fera mieux comprendre pourquoi il est absolument nécessaire de marcher longtemps pour en sortir. Ici, monsieur Longuet m'interrompit. Et me demanda pourquoi, en terminant mes phrases, j'avais toujours ce geste du pouce de la main droite dont je ne puis me défaire depuis le buste de César. Serait-ce, monsieur le commissaire, que ce geste du pouce vous vient de l'habitude de mettre les poucettes ? Je lui répondis que non, mais que je le tenais de ce que, ami des beaux-arts, je me livrais souvent à celui de la sculpture. C'est, lui expliquai-je, le geste du modelage. J'enfonce mon pouce dans mon discours comme dans ma glaise. Il me remercia en s'étonnant qu'un commissaire de police s'occupât de sculpture. Je lui répondis que c'était le nouveau jeu. Et maintenant que je connais les événements, je puis dire avec un certain orgueil que si je n'avais pas été sculpteur, nous ne serions jamais sortis des catacombes. Ayant remonté ma montre dans le moment que M. Longuet éternuait, raconte M. Mifroy, nous étions fixés sur l'écoulement des jours et des nuits. Je laissai ma montre dans la poche de M. Longuet, ce dont il me remercia en me disant que d'avoir ma montre dans sa poche, cela le soulagerait beaucoup. Qu'est-ce que cela, au fond, pouvait me faire qu'il eût ma montre puisque je savais où était l'heure? Je n'eusse jamais pensé cette dernière phrase hors des catacombes, et maintenant je la jugeais sans importance. Or, cette phrase renferme une révolution auprès de laquelle les bouleversements sociaux de 1793 sont le petit jouet de peuple en enfance. Je devais m'en rendre compte à quelque temps de là. Le chemin que nous suivions était une galerie assez vaste, de 4 à 5 mètres de haut. Les parois en étaient fort sèches, et la lumière électrique dont nous l'éclairions nous faisait voir une pierre dure, exempte de toute végétation parasite, exempte même de moisissures. Cette constatation n'était point pour réjouir M. Longuet, car s'il commençait à avoir grand faim, il claquait déjà de la langue avec une ostentation qui attestait son désir de se désaltérer. Je savais qu'il y avait dans les catacombes des filets d'eau courante. Je remerciais le ciel de nous avoir point mis sur la trace d'un de ces filets-là, car nous n'eussions point manqué de perdre un temps précieux à nous y abreuver. De plus, comme nous ne pouvions emporter d'eau, ce liquide n'aurait servi qu'à nous donner soif. M. Longuet, se faisant difficilement à cette idée que nous marchions sans vouloir savoir où, je résolus de le mettre à même de comprendre la nécessité de vouloir marcher au hasard, en lui racontant, ce qui était la vérité, que lors des dernières réfections de la voie, les ingénieurs, étant descendus dans le trou des catacombes, avaient en vain cherché à s'orienter et à trouver une issue. Ils avaient dû y renoncer, faire construire les trois piliers de soutènement et maçonner la voûte avec des matériaux descendus directement dans le trou et retirés par ce trou avant sa clôture définitive, qui, malheureusement, s'était faite sur nos têtes. Pour ne point le décourager, j'appris à M. Longuet qu'à ma connaissance, nous pouvions compter sur au moins 500 kilomètres de catacombes. C'est le chiffre de kilomètres connu. Mais qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il n'y en eût pas davantage. Évidemment, si je ne l'avais averti tout de suite de la difficulté de sortir de là, il eût manifesté son désespoir le deuxième jour de marche. Et songez donc, lui dis-je, qu'on a creusé ce sol du IIIe au XVIIe siècle. Oui, pendant 1400 ans, l'homme a enlevé sous ce sol les matériaux qui lui étaient nécessaires pour construire dessus. Si bien que de temps à autre, comme il y a trop de choses dessus et qu'il n'y en a plus du tout dessous, le dessus retourne au-dessous d'où il est sorti. Et puisque nous nous trouvions encore sous l'ancien quartier d'enfer, je lui rappelais qu'en 1777, une maison de la rue d'enfer fut engloutie de la sorte par le dessous. Elle fut précipitée à 28 mètres au-dessous du sol de sa cour. Quelques mois plus tard, en 1778, sept personnes trouvaient la mort dans un écoulement semblable du côté de Ménilmontant. Et je lui citais encore quelques exemples plus rapprochés, insistant sur les accidents de personnes. Il comprit et me dit « En somme, il est souvent plus dangereux de se promener de dessus que de dessous. » Je le tenais. Et le voyant, ma foi, tout ragaillardi, ne me parlant plus de sa faim, oubliant sa soif, j'en profitais pour lui faire allonger le pas et j'entonnais le refrain le plus entraînant qui me vint à la mémoire. Il le reprit et nous chantâmes en chœur « Au pas, camarade, au pas, la route est belle, il y aura du frichti là-bas dans la gamelle. » C'est ça qui vous fait marcher au pas. Quand nous fûmes fatigués de chanter, on se fatigue très vite de chanter dans les catacombes, parce que la voix ne porte pas. M. Longuet me fit encore 100 questions. Il me demanda combien nous avions de mètres sur la tête, et je lui répondis que cela pouvait varier, d'après les derniers rapports, entre 5,82 m et 79 mètres. Quelquefois, lui dis-je, la croûte terrestre est si peu épaisse qu'il faut prolonger les fondations des monuments jusqu'au fond des catacombes. C'est ainsi qu'au cours de nos pérégrinations, nous risquons de rencontrer les piliers de Saint-Sulpice, de Saint-Étienne-du-Mont, du Panthéon, du Val-de-Grâce, de l'Odéon. Ces monuments s'élèvent en quelque sorte sur des pilotis souterrains. Pilotis souterrains, fit-il. Pilotis souterrains. Vraiment, au cours de nos pérégrinations, nous risquons de rencontrer des pilotis souterrains. Mais il avait son idée fixe. Et au cours de nos pérégrinations, est-ce que nous risquons de rencontrer une sortie Y a-t-il beaucoup de sorties des catacombes ? Oh, ce n'est point, lui répondis-je, ce qui manque. D'abord, nous avons des sorties dans le quartier. Oh, tant mieux, interrompit-il. Et d'autres que l'on ne connaît pas, des sorties par lesquelles on n'entre jamais, mais qui n'en existent pas moins. Dans les caves du Panthéon, dans celles du collège Henri IV, de l'Observatoire, du séminaire Saint-Sulpice, de l'hôpital du Midi, de quelques maisons de la rue d'Enfer, de Vaugirard, de la Tombissoire, et à Passy, à Chaillot, à Saint-Maur, à Charenton, à Gentilly, au plus de 60. Oui, il y a du bon, et il y en avait du meilleur, répliquai-je avant Colbert. Ah ah! Ne faites pas ha ha! Si Colbert, le 11 juillet 1666, est patent, interrompit M. Longuet, vous avez autant de mémoire que M. Le Camus. Ne vous étonnez point, M. Longuet. J'ai été secrétaire du commissaire autrefois dans le quartier, et il m'a plu de m'intéresser aux catacombes, comme il m'a plu depuis de faire du violon et de la sculpture. Vous en êtes resté au commissaire de police, vieux jeu, mais permettez-moi de vous le dire en passant, mon cher monsieur Théophraste Longuet. Pendant l'œil, oh, il ne réplique à point. Vous disiez donc que Colbert, le 11 juillet 1678, pour mettre un frein à la cupidité des entrepreneurs, fit rendre une ordonnance qui bouchait les issues des catacombes. L'ordonnance de Colbert, mon cher monsieur Longuet, nous a quasi murés. À ce moment, nous frôlâmes un pilier énorme. J'en examinai la structure et je dis, sans m'arrêter, « Ah ben voici un pilier qui a été bâti par les architectes de Louis XVI en 1778 lors des consolidations. »« Ce pauvre Louis XVI, dit M. Longuet, il eût mieux fait de consolider la royauté. »« Ah, c'eût été, répliquai-je avec à propos, consolider une catacombe. » Cependant, je crois que catacombe ne s'emploie qu'au pluriel. Monsieur Longuet m'avait pris la lampe électrique des mains et ne cessait d'en diriger les rayons à droite et à gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Je lui demandai la raison de ce geste qui finissait par me fatiguer les yeux. « Je cherche, dit-il, des cadavres. »« Des cadavres. » Des squelettes. On m'avait dit que les murs des catacombes étaient tapissés de squelettes. Oh, mon ami, cette tapisserie macabre. Je l'appelais déjà mon ami, tant sa sérénité en une aussi grave occurrence était faite pour me ravir. Cette tapisserie macabre n'est guère plus longue qu'un kilomètre. Ce kilomètre, justement, s'appelle l'ossuaire à cause des crânes, radius, cubitus, tibia, fémur, phalange, thorax et autres osselets qui en font l'unique ornement. Mais quel ornement ! C'est un ornement de 3 050 000 squelettes qu'on a tirés de cimetières et nécropoles de Saint-Médard, Cluny, Saint-Landry, des Carmélites, des Bénédictins et des Innocents. Tous osselets bien triés, arrangés, coordonnés, classés, étiquetés, qui font sur les murs et dans les carrefours des rosaces parallélépipèdes, triangles, rectangles, volutes, corniches et maintes autres figures d'une régularité merveilleuse. Souhaitons, mon ami, d'arriver dans ce domaine de la mort. Ah, ce sera la vie, car je ne connais pas à Paris d'endroit plus agréablement fréquenté. On n'y rencontre que des fiancés, des jeunes mariés en pleine lune de miel, les amants et généralement tous les gens heureux. Nous n'y sommes pas. Qu'est-ce qu'un kilomètre d'ossement sur 500 ? Évidemment, oui. Combien estimez-vous, monsieur Bifroy, que nous ayons fait de kilomètres ? Mettons 9. Qu'est-ce que 9 kilomètres sur 500 ? Mais j'engageai M. Longuet à ne point faire de ces calculs inutiles, et il me pria de lui raconter l'histoire du concierge et celle des 4 soldats. Cela faisait deux histoires qui n'étaient guère longues à narrer. Elles nous firent passer tout de même 1 kilomètre. La première tient en quelques mots. Il y avait une fois un concierge des catacombes qui s'égara dans les catacombes. On retrouva 8 jours plus tard son cadavre. La seconde se rapporte à 4 soldats du Val-de-Grâce qui descendirent à l'aide d'une corde dans un puits de 80 mètres. Ils étaient dans les catacombes. Comme ils ne reparaissaient pas, on fit descendre des tambours qui firent le plus de bruit qu'ils purent avec leur peau d'âne. Mais dans les catacombes, la voix ne porte pas. Nul ne répondit au roulement. On fit des recherches, et au bout de 40 heures, on les trouva mourants dans un cul-de-sac. « Ils n'avaient pas de résistance morale, » dit Théophraste. « Mais c'était des imbéciles, » ajoutai-je. « Quand on est assez bête pour s'égarer dans les catacombes, on ne mérite aucune pitié, je dirais même aucun intérêt. » Alors là-dessus, Théophraste me demanda comment je ferais, moi, pour ne pas m'égarer dans les catacombes. Comme nous arrivions à un carrefour, je pus lui répondre sans tarder. Je lui dis « Voici 2 galeries, laquelle allez-vous prendre ?» L'une s'éloignait presque directement de notre point de départ. L'autre y revenait presque sûrement. Comme notre destin à nous était de nous éloigner de notre point de départ, M. Lourguet me montra la première galerie. « J'en étais sûr !» m'exclamai-je. « Mais vous ignorez donc tout de la méthode expérimentale !» La méthode expérimentale au fond des catacombes a démontré depuis des siècles que tout individu qui croit revenir à son point de départ, à l'entrée des catacombes, s'en éloigne. Donc il est de toute logique que pour s'éloigner de son point de départ, il faut prendre le chemin qui paraît y ramener. Et nous nous engageâmes dans la galerie qui semblait nous ramener sur nos pas. Comme cela, nous étions sûrs de n'avoir pas fait un inutile chemin. Ce système était excellent, car il nous conduisit dans une certaine contrée des catacombes que personne n'avait visitée avant nous depuis le XIVe siècle. Autrement, on le saurait. Chapitre 32. Où Monsieur le commissaire de police Mifroid, qui a eu l'occasion de visiter le laboratoire de Milne-Edwards, raconte à M. Théophraste Longuet des histoires naturelles qui le rassurent un peu avant sa fin. F.A.I.M. M. Théophraste Longuet, raconte M. Mifroy, ne cessait depuis quelques heures de me fatiguer de ses réflexions inutiles sur l'état de son estomac. Il n'y avait pas 1 jour et demi que nous nous trouvions dans les catacombes, et déjà ce pauvre homme se plaignait de la nécessité où nous nous trouvions de marcher sans manger. Manger, oh, ce mot prenait dans la bouche de Théophraste une importance considérable. Il semblait à l'entendre que nous devions penser qu'à cette chose, manger. Mais à quoi cela eût-il servi de manger, je vous le demande. J'ai toujours eu le sourire quand dans les histoires de naufrage, l'auteur apporte au malheureux qui se noie une bouée qui sur la mer immense et démontée ne pourra servir qu'à prolonger l'agonie de celui-ci et les phrases de celui-là. Certes, je n'aurais pas, étant doué autant que quiconque de l'esprit pratique, négligé en état de naufrage le secours d'une bouée au milieu de la Seine, ou encore dans le détroit du Pas-de-Calais, entre Douvres et le Cap Griné, mais sur une mer immense et démontée, j'eusse repoussé la bouée, l'inutile bouée, et me serais résolu à une mort immédiate dans l'abîme, plutôt qu'à danser sans espoir à la crête écumante des vagues. Ainsi, j'aurais estimé perdre mon temps en gestes vains et inutiles, si, obéissant à l'instigation de Théophraste qui voulait manger, j'avais accroché mon espoir à quelques maigres végétations cryptogamiques que mon regard attentif venait de découvrir à la paroi humide des galeries que nous parcourions alors. « Ah, si nous avions pu interrompre notre course d'un bon repas qui nous eût donné des jambes pour continuer notre route, j'aurais été le premier à dire à Théophraste, Mangeons, amis, la table est servie. Mais pour quelques champignons, peut-être vénéneux, arrêter notre marche eût été le fait de sots et peu intéressants personnages. Monsieur Théophraste Longuet n'est pas raisonnable. Puisqu'il a faim et qu'il n'est pas prêt de sortir des catacombes, il veut que je lui dise ce qu'il pourrait manger pour ne pas mourir de faim s'il devait rester dans les catacombes. C'est un enfant. Heureusement, j'ai visité le laboratoire des catacombes de M. Milne-Edwards et je pus l'entretenir de la faune et de la flore obscuricole et cavernicole dont, au besoin, il se pourra repaître. Du reste, ce genre de conversation, en vain m'efforcerai-je de le dissimuler, me plaît. Oui, il me plaît de parler des choses qui se mangent. C'est sans doute que ne voulant pas m'avouer que j'ai faim tout de même. Il y a des moments où, malgré soi, on est vieux jeu. Mon cher ami, dis-je à Théophraste, il se peut, même si vous ne sortez des catacombes, que vous ne mourriez pas de faim. « Et pourrais-je mourir de soif ? » interrompit-il. « Je crois bien que si vous mourrez de soif, vous mourrez de faim. Mais si vous ne mourrez pas de soif, vous ne mourrez pas de faim. »« Quel mystère est-ce là ? Expliquez-vous, monsieur le commissaire. » « Voici. » La flore obscuricole, la végétation cryptogamique, les champignons des catacombes, pour tout dire, ne parviendront jamais, je le crains, à calmer les transports d'une faim qui, si j'en crois vos jeux de physionomie, augmente dans des proportions inquiétantes pour tout être vivant. Disant cela, je faisais une allusion évidente au danger que je courais d'être mangé d'ici 48 heures par le sanguinaire et impitoyable Théophraste, ce qui eût été parfaitement ridicule, mais dans l'ordre. Lisez, à ce sujet, tous les radeaux de la Méduse et tous les Arthur Gordon, Pym de l'univers, mais nous pouvons rencontrer de l'eau, et alors vous pourrez manger. Boire, fit-il, manger et boire. Vous vous ferez ichtyophage. Qu'est-ce que c'est que ça? Les ichtyophages sont les mangeurs de poissons. « Oh, oh !» s'exclama-t-il avec une immense satisfaction. « Il y a de l'eau dans les catacombes, et dans cette eau, il y a des poissons. Sauce de gros poissons !»« Non, ce ne sont point de gros poissons, mais certaines eaux courantes en contiennent des quantités incalculables. »« Vraiment, incalculables, incalculables, comment sont-ils gros ?»« Oh, il en a de différentes tailles. » Généralement, ils sont petits, mais ils ne sont point désagréables au goût. Vous en avez mangé ? Non, mais on me l'a affirmé quand je suis descendu dans le suaire et que je visitais la fontaine de la Samaritaine, qui est une très confortable fontaine. Elle est loin d'ici ? Oh, en ce moment, je ne pourrais vous dire. Tout ce que je sais, c'est que cette fontaine fut construite en 1810, par M. Héricourt de Thurie, ingénieur des carrières souterraines. Actuellement, cette fontaine est occupée par les copépodes, Cyclops imprimeriatus. Les copépodes, c'est des poissons? Oui, ils présentent des modifications de tissus, de coloration tout à fait particulières. Ils ont un bel œil rouge. « Comment, un œil ?»« Oui, c'est pour cela qu'on les appelle cyclopes. »« De ce que ce poisson n'est qu'un œil, il ne faut point vous étonner, car l'Acellus aquaticus, qui vit généralement également dans les eaux courantes des catacombes, est un petit isopode aquatique, comme son nom l'indique, qui souvent n'a pas d'yeux du tout. Beaucoup d'exemplaires ne présentent plus à la place de l'œil qu'une petite pigmentation rougeâtre. » D'autres, enfin, n'en ont nulle trace. « Pas possible !» s'écria Théophraste. Alors comment voit-il clair? Mais ils n'ont pas besoin de voir clair, puisqu'ils vivent dans l'obscurité. La nature est parfaite. Crus-je devoir alors m'écrier, jamais je ne m'élèverai avec assez de colère contre ceux qui nient cette perfection. Il est parfait que la nature donne des yeux à ceux qui en ont besoin. Il est parfait que la nature les ôte à ceux à qui ils ne sont plus nécessaires. Théophraste fut frappé de mes paroles. Alors, me dit-il, nous, si nous continuions à vivre dans les catacombes, nous finirions par plus avoir Dieu. Ben, évidemment, nous commencerions à perdre l'usage du regard et le regard lui-même. Nos enfants perdraient bientôt les yeux. Nos enfants ? S'écria-t-il. Nous rîmes beaucoup de ce léger lapsus. Puis comme il insistait encore à ce que je l'entretinsse des poissons que nous pouvions trouver dans les catacombes et que nous pourrions peut-être manger, je fus ainsi amené à lui faire une sorte de cours sur les modifications des organes, leur développement excessif ou leur atrophie, suivant les milieux fréquentés par les individus. Si les poissons dont je vous parle n'ont plus Dieu, fis-je, bof, mais égal, je ne mange jamais la tête. En revanche, leurs organes sensoriels présentent de profondes modifications. Ainsi, la cellus aquaticus, dans l'espèce normale même, est armée de petits organes aplatis, ovulaires, terminés par un pore que l'on considère comme des organes olfactifs. Ce sont de véritables bâtonnets olfactifs. En outre, différents poils, les uns ramifiés, les autres droits, sont à n'en point douter des poils tactiles, enfin des poils qui tâtent l'espace. Et ces bêtes qui ne voient pas, grâce à ces organes olfactifs et tactiles, si entièrement développés, connaissent l'espace autour d'eux aussi bien, peut-être mieux, que s'ils voyaient dans la lumière. Oui, mon cher Théophraste, il y a des circonstances dans la vie des animaux où le nez remplace l'œil, et ce nez peut ainsi acquérir des dimensions tout à fait incroyables. Dans le puits de Padirac qui est dans le Lot, M. Armand Viré, qui est un savant, a trouvé un acellide à 150 mètres de profondeur et à près d'un kilomètre de l'entrée du gouffre, qui possède des bâtonnets olfactifs d'une longueur tout à fait surprenante. Mais est-ce qu'il y a là dans les eaux courantes des catacombes que cet Acellus aquaticus ? Demanda Théophraste. Que non point ! Oh, il s'y trouve encore maintes autres sortes de poissons cavernicoles, tels par exemple le Niphargus muteanus, et ce dernier en grande abondance. « Ah ben, tant mieux !» s'écria Théophraste, « tant mieux !» Les organes oculaires de Niphargus muteanus sont également atrophiés. « Ceci m'est égal !» fit encore M. Longuet, qui avait son idée. « Savez-vous seulement comment on le pêche ?»« Je ne saurais affirmer que les catacombes, fis-je, qui contiennent tant de centaines de mille d'ossements, puissent nous présenter en cette occurrence le secours d'un asticot. « Il importe, s'écria Théophraste, un pêcheur à la ligne n'a plus la tour dans sa boutique, et le nommé Puteanus n'a qu'à bien se tenir. » Ici nous prîmes quelques repos. Nous nous endormîmes en songeant aux eaux courantes fréquentées par l'Acellus aquaticus et par le Niphargus muteanus. Nos rêves furent magnifiques, mais de beaucoup dépassés par la surprise inexprimable de notre réveil.